And so, the third celestial sphere in proximity to the sun entered a new millennium. 6 billion souls inhabiting 266 nations. Their resentment and hopelessness proclaimed in 7,000 distinct dialects. A planet in total disarray.
Order your city police officers on trial for killing Amadou Diallo, who found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of 8-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Anarchy.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society without law.
In the declare our right on this earth.
People have been annihilated.
Anarchy.
In the declare our right on this earth.
Another Sanders campaign for New York's vacant Senate.
Political and social.
Declare our right on this earth. To be a man. To be a human being. To be respected as a human being. To be given the right.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle. Avec cette émission, nous poursuivons le cycle consacré aux discriminations touchant les femmes issues de l'immigration et à l'égalité homme-femme. Au programme, vous pourrez entendre une rencontre dans le cadre d'un atelier socio-linguistique qui s'est déroulé à Vitry-sur-Seine, à la cité Balzac, à l'espace social Balzac, avec le concours justement d'une animatrice sociale, Zina. Ensuite, vous pourrez écouter la poursuite des échanges de la rédaction, notamment Yovan Gilles et Damien Travallet, à propos de l'émergence ces dernières années d'une politique de lutte contre les discriminations, ses postulats et ses conséquences. Mais tout de suite, nous vous invitons donc à écouter cette rencontre dans le cadre d'un atelier socio-linguistique. À plus tard et bonne écoute.
Donc on est dans un groupe d'ateliers sociolinguistiques. C'est un groupe de femmes qui viennent de différents pays, qui participent à ces ateliers-là dans le cadre d'autonomisation sociale, pour qu'elles puissent se débrouiller dans les démarches de la vie de tous les jours.
Voilà. Et donc, principalement, vous êtes toutes de la cité Balzac, vous le sentez?
Non, elles viennent de tout Vitry. Balzac, j'en ai pas beaucoup. Et même aujourd'hui, il n'y a personne de Balzac.
D'accord.
Donc, elles viennent un peu partout de la ville de Vitry, du centre-ville, du port à l'anglais, même du plateau. Donc, c'est ouvert à tout le monde.
D'accord. Et dans le cadre de ces ateliers, donc, c'est un but aussi d'offrir un certain nombre de facilités au plan linguistique,
oui,
pour l'apprentissage du français.
Tout à fait. L'usage de la langue française pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours.
D'accord. Et c'est à quelle fréquence chaque semaine?
Deux fois par semaine, deux fois trois heures. Pour ce groupe-là, c'est l'après-midi et j'ai deux autres groupes le matin.
D'accord. Et c'est l'occasion aussi, ces ateliers, peut-être d'aborder un certain nombre de problèmes par rapport à l'intégration, par rapport aux discriminations, puisque c'est un petit peu l'objet de notre rencontre.
Oui. Par exemple, en revenant sur les démarches, par exemple, administratives, pour pouvoir se débrouiller dans les démarches administratives, on aborde ça régulièrement et je leur dis, il ne faut pas se dire « je suis étrangère, donc si on ne me comprend pas du premier coup, je vais me renfermer sur moi. Au contraire, il faut oser demander, de répéter. C'est par là que passe l'intégration. Parce que si on a un premier blocage et on n'ose pas une deuxième fois repartir, demander un renseignement ou faire ses démarches, inscrire ses enfants ou aller à la poste, etc.
Et voilà. Mais si je parle du mot discrimination déjà, est-ce que ça vous évoque, à vous toutes, quelque chose d'aujourd'hui au niveau de la compréhension, déjà le mot lui-même, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui?
Ça vous fait penser à quoi quand vous entendez mot discrimination? Ça vous fait penser à quoi? Ce que tu as dit l'autre jour?
Religion.
Par rapport à la religion.
La religion essentiellement?
Parce qu'on a débattu l'autre jour sur ce sujet-là. Elle a vécu directement et pour elle, c'est par rapport à sa religion. Donc, comme elle est voilée, donc on voit qu'elle est musulmane, tu tu peux le dire toi-même, ce que tu as vécu. Donc tu disais que tu passais avec tes enfants,
oui,
dans la rue.
Oui, dans la rue, marcher.
Je marchais avec mes enfants.
Oui, avec mes enfants. La dame
s'est moquée de moi.
S'est moquée de moi.
Et cette dame, elle était comment?
Une vieille dame.
Oui.
D'un certain âge. Oui. Elle lui a fait des grimaces.
Pourtant, vous avez le voile, mais vous avez le visage découvert.
Oui.
Et en plus, vous avez un voile de toutes les multicolores.
Oui. Malgré ça, voilà, elle a ressenti ça comme une discrimination par rapport à sa religion.
D'accord.
Elle a ressenti, c'est elle qui l'a exprimé comme ça. Hein.
Oui. Parce qu'en France, dans beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de femmes françaises, sont nées en France, qui ont foulard.
Et c'est une situation que vous rencontrez souvent, ou c'était la première fois que ça vous arrivait, que quelqu'un se moque de vous, comme vous disiez, parce que, enfin, à cause de vos croyances, de votre religion?
C'est la première fois.
Première fois.
Oui.
Juste une seule fois.
Oui, une seule fois.
Ça va alors.
Mais ça va, ça va.
C'est pas 10 fois par jour.
Mais sur le coup, ça t'a blessé.
Vous autres, vous avez ressenti que peut-être du fait de vos origines ou de votre religion ou même du fait que vous êtes des femmes, vous avez eu des situations un peu difficiles, peut-être en cherchant un emploi ou un logement ou dans des situations avec l'administration, ça vous évoque quelque chose ou des difficultés?
L'autre jour, tu nous as raconté une expérience qui t'est arrivée. Pas très drôle. Hein.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Oui, je rentre dans un bureau et puis ils sont mal accueillis et c'est tout.
C'était dans quel bureau? Caisse de retraite, c'était ça. Hein.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors très concrètement?
Parce qu'on a fait une séance de préparation pour aujourd'hui. Donc elle a été pour avoir des informations sur sa retraite parce qu'elle sera bientôt à la retraite. Et elle m'a dit que j'étais très très mal accueillie. Et elle l'a ressenti discriminatoire par rapport à ses origines. Hein, ouais. C'était ça. Quand on voyait que tu étais d'origine étrangère.
Je sais pas, mais...
Mais toi, tu l'as ressenti comme ça.
On peut se poser la question. Cette année, j'ai fait renouveler ma carte d'identité. J'ai été 3 fois à la mairie du 20e arrondissement, à l'antenne de police. Je peux dire que j'ai été très très mal accueilli. Il y a ce problème de fonctionnaires qui accueillent mal les personnes parce qu'elles ne parlent pas bien français. Donc il y a certains fonctionnaires, on sait qu'ils sont agacés, qu'ils peuvent être vraiment très méprisants. On sait très bien qu'il y a aussi certains fonctionnaires qui sont d'une humeur, on est traités comme des espèces de matricules de numéros, et que même lorsqu'on est français, disons on est en France, français de souche, on a de bonnes raisons de s'énerver aussi contre les fonctionnaires et d'avoir véritablement, d'avoir le sentiment d'être traité très 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 mal aussi. Hein. Et ils vous ont demandé de revenir de...
Après, il dit qu'il faut rendez-vous, mais je ne rendez-vous pas, je vais directement à Créteil.
Ouais.
Après, ils me contactaient pareil. Et puis, le lendemain, j'ai eu encore une dame gentille.
Pareil, c'était la première fois que ça vous arrivait ou ça vous arrive?
C'est la première fois parce que j'étais le papier, c'est la première fois.
D'accord. Et vous aviez déjà vécu d'autres situations ou...
Oui, pas mal. Je suis là depuis un moment, mais il y a des bas. Hein.
Vous avez peut-être quelques exemples si
ça,
vous...
ça, c'est la première fois, c'est vraiment, vraiment.
Et là, par exemple, tu es à la recherche d'un emploi. Est-ce que tu ne ressens pas de la discrimination par rapport à l'âge? Parce que oui, tu es proche de la retraite, oui. Donc est-ce que...
C'est plus difficile qu'avant peut-être de retrouver un travail?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Est-ce que vous êtes un peu au courant du débat qu'il peut y avoir en France sur ces questions d'intégration, de discrimination?
Si, immigration, c'est quoi les deux?
Pardon?
Intégration et immigration, c'est quoi les deux?
Intégration et immigration. Immigration après intégration.
Immigration, ça veut dire...
Et s'intégrer après.
S'intégrer, voilà. Et puis, à peu près le début des années 2000, c'est vrai que dans l'espace public, les discours un peu politiques, on a mis beaucoup l'accent sur ce qu'on a appelé la lutte contre les discriminations, parce qu'on s'est dit que c'était un des principaux facteurs qui rendait l'intégration des gens qui venaient d'ailleurs difficile. Par discrimination, on entend des situations, en fait, où, par exemple, moi, parce que je ressemble pas forcément à ce qu'on pourrait penser être un Français de souche, comme disait Gilles tout à l'heure, je vais me présenter pour trouver un emploi, et du fait de ma couleur de peau, mais ça pourrait être tout un tas de critères autres, par exemple, si on est une femme, si on appartient à telle ou telle religion, l'employeur va pas nous prendre, mais pas parce que on travaille bien ou mal, parce que il y a ce facteur qui joue et sur lequel est créée en fait la discrimination. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, une situation où le fait que vous êtes de religion musulmane, donc que vous portez un voile, va amener une personne à dire bah non, je veux pas travailler avec cette personne, où je ne veux pas lui attribuer un logement parce qu'elle est de telle religion. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit par la loi, en fait. Et donc, ce dont on vient discuter un peu aujourd'hui avec vous, c'est de ça. Est-ce que vous avez ressenti des situations où ça pouvait vous arriver? Est-ce que parfois, c'est difficile, tout simplement, d'être ici, en France, avec vos origines
Pour vos enfants, maintenant, ils ont fait des études et là ils sont à la recherche d'un emploi et que vous voyez que vous ressentez qu'il y a un blocage pour accéder à un emploi parce que il vient d'origine arabe ou africain.
Vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites mes enfants ont un nom français, ça va aller. Et s'ils n'avaient pas un nom français entre guillemets, ça irait pas, vous pensez?
Oui, mais les prénoms aussi, c'est non chinois, mais par rapport après, c'est non français.
Et c'est important pour vous que vos enfants aient un nom français?
Peut-être, oui.
Ça sera plus facile, vous pensez?
Je sais pas, mais peut-être, je sais pas.
Pour s'intégrer, justement.
Mais par rapport toujours à la tête chinoise.
Ouais. Ça, on peut pas le changer.
Il y avait une dame qui a parlé la semaine dernière, malheureusement aujourd'hui elle n'a pas pu être là. Elle a une fille qui est à Bac plus 8, ingénieure en biologie pharmaceutique. Et en parlant de ça, elle avait même les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit, ma fille elle s'est sacrifiée, elle n'a pas pu profiter de sa jeunesse. Elle avait un objectif, c'est de réussir ses études. Et quand elle a terminé ses études, elle s'est vue toutes les portes fermées devant elle parce qu'elle avait un patronyme arabe. Pendant 2 ans, elle était à la recherche d'un emploi. Il y avait même des employeurs qui lui ont dit « C'est dommage que vous vous appeliez tel nom et tel prénom » pour ne pas le citer exactement. Elle s'est sacrifiée pendant 10 ans ou plus. Que vous portez un nom arabe, sinon on vous aurait pris.
Vous voyez un peu de quoi on parle et est-ce que vous avez envie de réagir peut-être un peu par rapport à ça? Peut-être que le nom, c'est un bon exemple pour commencer. Est-ce que vous avez déjà ressenti, peut-être chez vos enfants, alors plus que chez vous, ou plus facilement plutôt, est-ce que vos enfants ou vous-même, vous avez déjà senti que votre nom était peut-être une raison de ne pas avoir un emploi ou de ne pas avoir un logement ou de ne pas avoir une réponse de la part d'une institution?
Dans ton entourage, tes enfants, non?
Moi, mon enfant, un jour, il est sorti de l'école, il est terminé à midi, il est sorti, il y a quelque chose qui s'est passé dans la rue.
Oui.
Et lui, il est en train de rentrer, quoi.
C'était son chemin.
Son chemin. Et là, la police l'attrape, il est mis dans la voiture et il l'a ramené
au commissariat.
Au commissariat, il m'appelle, vous êtes madame la riche, je lui dis, il n'a rien fait. Il dit, votre fils, il a fait un crime et il l'a volé en voiture, je ne sais pas.
Oui.
Et c'est son copain, ou je ne sais pas c'est qui, il a fait ça. Ils l'ont fait, parce que mon fils, il a réagi mal avec lui, il a dit, je n'ai rien fait. Et je sais que mon fils,
comment il est
bien, il est bien, il est tout ça.
à cause de ça, parce que lui, il a répondu mal, ou je ne sais pas, ils l'ont fait, dormir là-bas.
Garde à vue, 24 heures.
Il n'a même pas 17 ans.
Il n'a rien.
Il n'était pas encore majeur.
Ouais. Le lendemain, quand moi, j'ai parti le voir, ils m'ont dit, une excuse, il n'a rien fait, on a vu que votre fils, il n'a rien fait. Et ils l'ont pris aussi les
empreintes.
Vous pensez que c'est peut-être à cause de ses origines ou de son nom que
oui,
c'est arrivé?
Voilà,
ouais.
Voilà.
Vous pensez que ça ne serait pas
parce
arrivé?
Il n'a jamais eu ça. Il n'a jamais fait quelque chose de mal.
C'est sûr.
Parce qu'ils l'ont trouvé, parce que c'est passé quelque chose qui s'est
juste
passé
avant,
à côté de l'essai. Ils sont en train de tourner, en train de chercher les personnes. Ah. Ils ont trouvé lui devant eux, ils l'ont pris à droite, ils n'ont pas à droite.
Plus pour des mineurs.
Il n'a rien fait, il est en train de rentrer de... Le pauvre, il a resté un jour, il n'a rien mangé. De midi jusqu'à midi, le lendemain. Il a dormi par terre, je ne sais pas comment. En plus, ils l'ont mis dans un truc pas bien. Et mon fils, il a ri, il a dit, je suis un mineur, vous avez pas le droit.
Quelqu'un qui n'a rien fait.
Ouais, il n'a rien fait.
Il l'a vécu comme ça, comme un abus qui était... qui a eu lieu parce que...
Ils ont dit que c'est des gens racistes. C'est des gens qui... C'était raciste.
Vous êtes de quelle origine?
Ceylan.
Sri Lanka. Est-ce que vous êtes arrivé récemment en France?
2008.
Oui, c'est très récent.
Et quoi?
Les enfants... C'est pas une fois.
Ah, il l'a pas fait qu'une seule fois. Dès qu'il entend les enfants faire un petit bruit, il appelle la police.
Oui.
Donc, tu le ressens, toi, comme... Il veut pas de vous comme voisin, c'est ça?
Oui.
Hein? À ta porte.
J'ai ouvert la porte, j'ai trouvé l'entrée. Et comme il a levé d'ordi juste à côté de notre porte, elle a dit, non, j'étais en train de... J'ai dit, c'est pas pareil.
Le levé
d'ordi, il est là et notre porte.
Ah, effectivement.
Ça, c'est une vraie...
Voilà.
Et depuis, elle n'écoute plus aux portes.
Non, en ce moment, elle n'est pas là. Parfois, elle l'accompagne, parfois, mais elle est vraiment...
Et du coup, ces situations, le fait que vous ressentez de temps en temps d'être soit malmené par la police, soit embêté par vos voisins, ou dans certaines difficultés, par exemple pour trouver du travail ou un logement, comment vous ressentez la société française? Est-ce que c'est une société dans laquelle c'est difficile de s'intégrer du fait de...
Ben ça dépend. Il y a des gens qui sont gentils, ils n'ont pas cette idée dans la tête, mais il y a des gens qui sont très 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 très, très racistes. Trop. Une fois, mes enfants, il a des copines, d'accord, des copines, donc c'est pas des... en train de parler devant la porte, et elle sort sa tête, il dit, vous parlez de... C'est devant notre porte, à côté de notre fenêtre. Il faut partir, il ne faut pas parler ici. Elle cherche tout.
Elle prend
mes enfants.
Et vous pensez que c'est plus grave depuis qu'on a parlé de la burqa?
Vous voulez dire l'atmosphère générale, l'ambiance générale? Est-ce que vous ne ressentez pas plus de rejet depuis qu'on
parle de voile?
Qu'on parle du voile?
Non, de toute façon, pareil. Voile ou pas voile, pareil.
D'accord.
Et vous, parce que vous disiez qu'il n'y a pas longtemps, on s'était moqué de vous à cause de vos croyances religieuses. Est-ce que vous trouvez que ça fait que c'est plus difficile actuellement, que ça arrive plus souvent?
À la télé, on parle du niqab, le voile intégral. Est-ce que c'est depuis qu'on parle beaucoup à la télé du voile que c'était... Ça t'est arrivé, dame dans la rue, s'est moquée de toi? Ça fait pas longtemps que ça t'est arrivé. Il y a 2-3 mois, combien?
Non, deux ans.
Ah, ça fait 2 ans.
Il y en a peut-être certaines de vous qui travaillent ou qui recherchent un emploi?
Moi, je suis là à Balzac, ça va faire bientôt 9 ans. Je vois que le Pôle emploi nous envoie souvent des demandeurs d'emploi d'origine étrangère, sous prétexte qu'ils ne maîtrisent pas le français, qu'ils doivent passer par une formation linguistique avant de rechercher un emploi. Alors que je peux donner un pourcentage. Sur 10 personnes qui nous envoient, je peux dire 6 ou 7, elles peuvent trouver du travail et assumer leur travail, mais elles sont toujours face à cette barrière-là. vous ne maîtrisez pas le français, donc vous faites d'abord une... Alors que par rapport au travail à lequel elle postule, au poste auquel elle postule, elles peuvent facilement le faire d'une façon...
Sans avoir besoin de maîtriser forcément très bien la langue.
Très bien la langue, parfaitement la langue. Donc voilà, je me dis, il y a un profil étranger, maîtrisant pas la langue, hop, il n'est pas apte pour l'emploi. Mm-hmm. Plusieurs années de suite, ils peuvent m'envoyer la même personne. Allez-y, faire d'abord de l'apprentissage linguistique et après vous recherchez un emploi.
Mm-hmm. Vous travaillez ou vous êtes dans une volonté de trouver un emploi ou pas?
C'est
difficile du coup de trouver un travail
à temps plein, oui, c'est difficile.
Et vous pensez que ça peut être là encore des discriminations que peut-être c'est plus difficile pour... C'est difficile à dire.
Quand on cherche du travail direct, ils demandent l'origine et tout ça.
L'origine? Ouais. Ils demandent l'origine quant à vous? Parce que ça, je crois pas que ça soit très légal, quoi.
Peut-être nationalité, c'est ça que
tu
veux
dire.
Nationalité.
C'est peut-être aussi pour certains emplois. Parce que si c'est le personnel de ménage, je pensais très bien que, au contraire, on dit que femmes d'origine étrangère, on les...
C'est discriminant, justement. Ben parce non. Que vers le ménage, on n'en voit que...
Voilà, c'est ça. Sauf que c'est en même temps, c'est pas vrai, puisqu'il y a beaucoup de femmes de ménage françaises qui sont des enfants. Oui, mais par exemple, quand on va en province, quand on va dans les campagnes françaises, dans les villages, toutes les femmes de ménage, très rares, de rencontrer une femme de ménage d'origine portugaise, marocaine. C'est que les françaises.
Ils n'acceptent pas du tout.
Bah oui, ils n'acceptent pas du tout. Quand on sort dehors, quoi, dans la campagne et tout ça, ils sont plus racistes qu'ici.
Oui, tout à fait. Oui. Mais je disais toujours, en France, ils sont racistes, même... Il y a un village qui n'aime pas l'autre village, ils sont même racistes entre eux. Donc, même d'une région à l'autre, d'un village à l'autre.
Ça existe partout, ça.
Même chez nous, ça existe.
Ouais. C'est ce qu'on appelle en France les esprits de clocher.
Voilà. Comme
chacun son clocher.
Comme un voisin.
Voilà.
Vous autres, vous êtes, vous recherchez...
Demandeur d'emploi.
Ou...
Sabat aussi, elle est demandeur. Toi aussi, tu es inscrite au Pôle emploi. Et ça fait des années, hein. Sabat, je l'ai depuis 3 ou 4 ans. Toi, ça fait 3 ans que tu es... 2 ou 3 ans, hein. Parce que tu es partie faire une formation, après tu es revenue. 2 ans. Au Pôle emploi, on te dit toujours, il faut apprendre le français, c'est ça? Après, tu trouves du travail. Et depuis quand tu es inscrite au Pôle emploi? C'est le Pôle emploi qui t'a envoyé pour s'inscrire ici. Alors qu'elle a derrière elle, je ne sais pas combien d'années d'expérience avant qu'elle soit au chômage.
Oui.
Elle a déjà travaillé.
Mais vous n'avez pas besoin de Pôle emploi, vous en trouvez un travail, vous pouvez...
Ses droits au chômage, elle est obligée de passer par le Pôle emploi.
Oui, mais où elle doit dire.
D'office.
Vous devez dire que vous participez, vous apprenez le français dans des ateliers.
Au Pôle emploi, elle justifie ça, oui.
Mais vous pouvez trouver aussi du travail sans passer par Pôle emploi.
Oui, enfin, en même temps, c'est une des missions de Pôle emploi que d'aider les gens à trouver du travail, à plus forte raison quand c'est pas forcément facile avec la langue, donc c'est fait pour ça. Donc,
pareil, ça fait plusieurs années que tu es inscrite au Pôle emploi. Par contre, toi, tu as eu plusieurs fois des propositions, mais elle est handicapée à 50% ou
50%,
et on lui propose toujours des postes. Où elle doit porter des charges, donc pour la dissuader. Oui, exactement. Il lui propose et après quand elle refuse.
Mais alors pourquoi il continue à lui proposer
Elle s'expose à des sanctions après quand il y a plusieurs refus.
Donc vous pensez que c'est fait exprès qu'on vous propose?
Je sais pas.
Vous savez faire. Oui, c'est vrai que c'est difficile à dire.
Mais il y a une certitude, c'est qu'ils font tout pour. Diminuer les statistiques.
Parce que c'est pour ça qu'on a quelque chose, un handicap, peut-être ils donnent rempli pour la retraite, je ne sais pas, mais je vois l'autre jour, je l'ai rempli pour le document pour la retraite, je ne sais pas comment faire.
Bon. Il y a des gens qui peuvent vous aider pour remplir les papiers.
faudrait qu'une personne...
Fatima qui fait le... qui aide à remplir les papiers administratifs.
Mais il faudrait mais effectivement...
Fait, elle, elle, elle relève le fait qu'elle soit mal accueillie. C'est pas le fait de remplir le papier.
Je mets tout dedans. Il n'y a pas dedans.
Parce que déjà, moi j'imagine, parce que déjà pour quelqu'un qui maîtrise bien la langue française, qui a rempli tous ses papiers, l'administration c'est déjà des trucs très difficiles. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue, c'est infernal. Il faudrait peut-être que vous ayez quelqu'un qui vous aide à remplir les papiers. Et qu'ensuite, il y a aussi des personnes qui accompagnent la personne devant l'administration. Et s'il y a une objection, un problème, qui puisse l'aider. Parce que sinon, effectivement, si vous ne parlez pas, s'il y a un problème... Ah, il manque une pièce, vous êtes...
Il manque une pièce, mais je n'ai pas le temps. Il faut revenir encore une fois. Ouais. Juste une photocopie.
Il y a eu beaucoup de ces dernières années, ce qu'on appelle les excès de zèle. Surtout pour la délivrance des papiers d'identité. On a constaté que des fonctionnaires avaient recevaient des ordres de plus de fermeté pour le contrôle. Il y a beaucoup de Français qui ont du mal, même qui sont nés en France, qui ont déjà du mal à faire renouveler leurs papiers. Hein. Et on s'est aperçu que des fonctionnaires faisaient du zèle. Ils étaient encore plus durs et plus impitoyables. Plus sévère que le ministre de l'Intérieur.
C'est comme la loi. Moi, je suis là, c'est là. Fais comme je peux. Fais comme moi.
Ouais.
Mais c'est la loi là-bas, c'est pas eux, mais c'est comme moi.
Ah, mais l'administration, même en France, aux États-Unis, partout dans le monde, l'administration, c'est, comme on dit, Kafka. Hein. C'est.
Parfois, c'est. Et pourtant, les gens-là, ils ont aidé les gens, non?
Ils sont censés aider les gens. Oui.
Voilà,
il y en a qui le font.
Oui, mais généralement, ils vont aider les gens tous. Mais pourquoi ils font autrement?
Mais, par exemple, à Pôle emploi, il y a beaucoup d'agents
de
la MPE à Pôle emploi. Il y a des agents qui veulent continuer à aider les gens et qui font tout pour ne pas appliquer la loi. Et il y en a certains, au contraire, qui complique la vie des gens.
Ce sont des positions de force.
Moi, l'année dernière, je suis partie en vacances. J'ai eu mes vacances jusqu'à le 17 août. Et eux, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Une lettre pour que je me représente le 18 de lendemain. Pour que je me voie que je suis là ou je ne suis pas là. Ben, ça, c'est... Et comme par hasard, j'ai raté mon avion. Et j'ai revenu après deux jours et ils m'ont fait des problèmes.
Ils font des problèmes sur les radiations abusives.
L'exigence du chiffre aussi. Hein.
L'exigence du chiffre, ça, je pense
pour
que
dire,
c'est...
Pour dire, juillet, il y a moins de chômeurs que mois de juin, par exemple. C'est juste dans cette optique-là.
Et aussi, je demande ça aussi. Mais et moi, dans le téléphone, pourquoi les gens cherchent pour se rendre pour matati, pour matata, c'est quoi ça?
Quand ils vous appellent, vous voulez dire?
Oui,
ouais, mais ça, c'est tout le monde, pas.
Je mettais ci, pour mettre ça, pour se rendre, pour maladie. Je ne sais pas, moi, pourquoi le téléphone souvent comme ça? On n'a pas du temps pour faire ça.
Et il y a une question qu'on n'a pas encore abordée. C'est. Parce que donc, ce dont on parle, la discrimination, elle touche beaucoup aussi et différemment les hommes et les femmes. Et est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, peut-être c'est plus difficile pour vous de vous intégrer que vos maris ou par exemple, mais peut-être que c'est pas le cas, vos filles, peut-être qu'elles s'intègrent plus facilement ou plus difficilement que vos garçons. Est-ce que vous voyez des différences en fonction de si on est un homme ou une femme, au niveau des discriminations, du racisme, de trouver un emploi, trouver un logement? Est-ce que vous pensez que c'est différent?
Pour le logement, peut-être, mais pour l'emploi, je crois, les filles, c'est plus intégré. Quoi.
Pour l'emploi, vous pensez?
Oui, c'est plus intégré que les garçons.
Ouais. Et pourquoi vous pensez?
Par rapport à tes enfants?
Oui, ma fille.
Ils ont plus de facilité, les filles ont plus de facilité.
Même des cousins et des cousines, quand ils font des trucs, ils prennent les filles plus que les garçons.
Peut-être pour certains emplois.
Je sais pas, c'est presque. Moi, des cousins, les enfants, ils n'ont encore pas beaucoup. Quoi. Mais il y a des cousins, les filles ils travaillent, quand ils font la vente de demande et tout ça, les filles travaillent, mais les garçons,
ils ont du mal à trouver le travail.
Et les autres? Vous avez des enfants?
Non.
Non?
Oui. Il y a trois, une semaine.
Ah, bah, félicitations.
Yes.
Et vous, vous avez des enfants qui sont à l'école ou qui travaillent déjà? Ils sont à l'école. D'accord. Ils sont petits alors. D'accord.
Peut-être par rapport à... Ton mari, il n'avait pas de mal à trouver du travail. C'était facile. Il a trouvé du travail facilement.
Oui.
Mais toi, non.
Et pourquoi? Parce que c'est plus difficile? Parce que vous êtes une femme, ou vous pensez, ou pas? Ou que ça n'a rien à voir?
Non.
Elle a des idées, mais n'arrive pas à les exprimer, c'est ça? Mais pour sortir, c'est difficile.
Pas d'autres réactions sur ça? Peut-être les discriminations hommes-femmes, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile quand on est une femme de trouver du travail ou un logement? Vous savez pas?
Je pense que par rapport au groupe qui est là, les rôles sont définis. Sont déjà définis. L'homme, il va chercher du travail, il va ramener la baguette. Et le rôle de la femme, c'est de s'occuper de l'aspect intérieur, voilà. De s'occuper des enfants, d'entretenir son foyer. Donc c'est pour ça, je pense, qu'elles ne ressentent pas qu'elles ne se rendent pas compte qu'il y a une discrimination par rapport à l'emploi ou par rapport au logement.
D'accord.
Voilà. C'est l'exemple de tout le monde, là. Hein. Le mari, il travaille, la femme, elle assure le reste. Hein, c'est ça. Hein. Le mari travaille, toi, tu t'occupes des enfants, de la maison, hein, c'est ça. Elles n'éprouvent pas ce besoin de chercher du travail pour savoir si elles sont confrontées à cette discrimination dans l'emploi. Je pense. Hein.
Oui.
Je suis aussi, et j'ai trois enfants.
Oui.
Et je suis à la maison, fait de femme au foyer,
oui.
Mais je travaille un petit peu dans le domicile.
Oui.
Parce que deux ans avant, j'ai chômage.
Oui. Donc, tu as travaillé, tu es au chômage depuis deux ans. Et avant, tu travaillais.
D'accord.
Et tu t'occupais de la maison.
Oui.
C'est juste un complément
oui.
de revenu pour le foyer.
Mon mari travaille.
Il travaille encore.
Mais maintenant, il est
À la retraite, d'accord. Et toi, tes filles, elles sont grandes.
Oui, 25.
La deuxième.
L'aînée,
elle a 25 ans.
25, deuxième, 23, dernier, 22.
21 ans. Et les deux grandes, elles travaillent?
Non. Maintenant, ce sont à l'école.
À l'université?
Oui.
D'accord.
Et elles ont appris le français à l'école?
Elles sont nées ici?
Ou elles sont nées?
Ce sont tous nées.
Ici en France, elles sont nées en France.
Ouais. Et donc elles parlent bien français?
Oui, bien.
Mais pourquoi elle ne vous donne pas des cours particuliers à la maison?
Parce que c'est difficile avec les enfants parler. Elle parle pas trop vite. Elle ne comprend rien.
Elles n'ont pas cette disponibilité, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent, des fois, on les sollicite pour leur expliquer des choses. « Ah, maman, j'ai pas le temps, maman, j'ai pas le temps. » Donc, il y a ça aussi. Il y a un décalage.
C'est les filles qui veulent maintenir les parents dans l'ignorance de la langue du pays d'accueil. Oh là là.
À la maison,
parler
avec apprendre le français bien, bien.
Ouais.
Pas redoubler. Hein.
Pas redoubler. Elles sont très bonnes à l'école. C'est ce qu'elles vous disent.
Ouais.
D'ailleurs, elles font des grandes études.
Ils vont pousser beaucoup vos enfants à s'intégrer justement par l'école, à réussir à l'université. C'est très important pour vous, on dirait. Ouais. Avant, en fait, de venir vous voir, on a aussi fait une émission avec une association qui s'appelle l'ASFAM, donc qui travaille avec plusieurs types de publics, mais pareil, avec des femmes, en fait, immigrées et qui veulent s'insérer professionnellement, donc, c'est-à-dire tout simplement trouver du travail. Et la responsable, en fait, de cette association nous disait que bien souvent, quand les femmes immigrées ou issues de l'immigration cherchaient du travail, les employeurs n'hésitaient pas à demander des choses comme « Est-ce que vous comptez faire un enfant bientôt ?» ou « Est-ce que vous allez vous marier ?» Enfin, des questions qui sont interdites par la loi, puisque concrètement, ça veut dire « Si vous voulez faire un enfant bientôt, je ne vais pas vous embaucher parce que je ne veux pas que vous ayez ce temps où vous êtes, vous travaillez pas, enfin, en congé maternité. » Et elle nous disait qu'il fallait faire très, très attention à ça, parce que comme les employeurs pensaient que du fait d'origine pas forcément française, peut-être que ces publics connaissaient moins bien la loi, leurs droits. Donc voilà, c'était par exemple ça concrètement, c'est vraiment un cas de discrimination qui est absolument pas légal. Et voilà, donc c'était juste pour peut-être vous donner un peu un exemple concret de ce qui pouvait se passer. Si jamais pour celles qui recherchent de l'emploi, faire attention à toutes ces petites choses qui sont très discrètes, mais qui sont... Parce que vous voyez, c'est bien là, en fait, la différence entre l'acte raciste où bêtement quelqu'un va se moquer de vous parce que vous avez telle croyance religieuse ou telle couleur de peau, et les discriminations, c'est beaucoup plus discret. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelque chose de très violent, mais c'est des petites choses qui, au quotidien, rendent les choses et la volonté de s'intégrer, de travailler, de trouver un logement plus difficile, quoi. Donc c'est pour ça peut-être aussi que c'est difficile d'en parler, parce qu'on sait pas, si on a pas eu cet emploi parce que on était d'origine étrangère ou parce que il y avait quelqu'un de plus fort en face de nous, quoi. Mais c'est vrai que c'est une réalité quand même, et il faut faire attention à toutes ces petites choses. Enfin, voilà, moi, ce que je pouvais vous dire, et de mon côté, voilà.
Merci, merci à vous.
Merci à vous. Merci à vous, quoi, pour cet échange.
Vous venez donc d'entendre des échanges qui se sont déroulés dans le cadre d'un atelier sociolinguistique à l'espace social Balzac de Vitry-sur-Seine. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission des Périphériques vous parle. Nous vous proposons maintenant d'écouter des échanges de la rédaction, donc notamment de Yovan Gilles et de Damien Travallé, à propos de l'émergence ces dernières années d'une politique de lutte contre les discriminations, ses postulats et ses conséquences.
Je pense qu'il y a déjà différentes manières de percevoir ce que c'est que la discrimination. Différentes manières aussi d'y réagir lorsqu'on en est victime soi-même. C'est pas soit la soumission, soit au contraire une colère qui prendrait un caractère de revendication de soi. C'est pas simplement ces deux manières, c'est effectivement la surdité aussi à ce qui vous arrive. Je pense que c'est quand même une donnée. Hein. Il y a la surdité volontaire à ce qui vous arrive. Il y a la surdité volontaire à ce qui vous arrive peut-être pour ne pas soi-même être assimilé à ces populations qui seraient en quelque sorte émargées et qui se verraient refuser la possibilité, disons, d'être considéré comme un Français de plein droit. Et puis, je crois aussi qu'il faudrait... à mon sens, mais là, ça serait peut-être une étude à faire, reliée à la manière dont la discrimination est perçue par un certain nombre de groupes sociaux, voir comment ce fait de vivre la discrimination se relie au contexte culturel d'un certain nombre de populations. Là, il faudrait carrément peut-être faire avoir une approche beaucoup plus anthropologique. Je pense que si on prend les rencontres avec les femmes maliennes, on voit que c'est par les femmes maliennes. Le Mali, c'est aussi très complexe au niveau de ses composantes, au niveau de différentes ethnies. Comment, dans un contexte culturel donné, pour des primo-arrivants, lorsqu'on arrive en France et qu'on est victime de discrimination, on y répond. Je pense qu'il va y avoir des différentiels significatifs par rapport à la manière d'y répondre. Et finalement, ce n'est pas simplement à la lumière, peut-être, de nos concepts à nous, en France, à la lumière de ces seuls concepts-là, qu'on peut éventuellement avoir une idée plus précise de, disons, des bonnes pratiques pour lutter contre la discrimination, ou en quelque sorte d'avoir une approche plus fine pour essayer d'établir véritablement des faits discriminatoires sans ambiguïté. Hein, des faits de discrimination sans ambiguïté. On le sait, on l'a fait pour l'embauche, on a pu, des gens ont fait des tests, ont créé des subterfuges, on réussit à établir une preuve irréfutable qu'il y a eu une discrimination négative. Hein. Là, on sait comment procéder. SOS l'a fait pour les boîtes de nuit. Bien évidemment, lorsqu'on a des injures racistes dans la rue, etc., ou des déclarations d'un certain nombre de politiques tonitruantes, il est manifeste qu'on a des preuves de forme de discrimination. Après, je pense que l'auto-positionnement victimaire, à mon sens, reste quand même une signe donnée à pas négliger dans l'approche des discriminations. Je crois qu'il y a, une tendance chez les individus modernes à avoir cette espèce d'autopositionnement victimaire qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas une lutte légitime contre la discrimination, mais qui, en quelque sorte, biaise notre approche aussi du fait discriminant. Ça, à mon sens, c'est indéniable. Et après, il y a aussi la question que j'avais abordée dans cette rencontre, c'est, attention, il y a la sélection, tout le monde, bien évidemment, sait que ça existe, et personne ne conteste le fait que des individus soient sélectionnés, dans le monde du travail, pour la session grandes écoles, plein de choses. Et donc souvent, effectivement, dans le cadre des logiques sélectives, on pourra avoir tendance très facilement à y voir, en quelque sorte, la marque d'une forme de discrimination, alors qu'on est dans les logiques sélectives. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut... c'est-à-dire le recours à « oui, j'ai pas eu ce poste parce que... » etc. On le sait que ça existe. On sait que ça existe. Et tout ça, en même temps, tout ça coexiste. Mais je pense qu'on a quand même une pluralité des manières d'être, de se conduire par rapport aux discriminations. Là, je pense que je crois que si on prend, par exemple, une des discriminations, alors là, les plus sensibles, plus douloureuses, c'est l'excision. Par exemple, ce qu'on avait vu avec les femmes de Montreuil dans l'entretien, alors là, bien évidemment, on touche à quelque chose où effectivement une personne peut, mais là c'est d'autres raisons, c'est plus une intimité familiale, là c'est carrément,
au-delà presque de la discrimination,
on a été dans une pratique mutilante, donc on a un corps partiellement mutilé, on a un corps qui porte le reliquat cicatriciel d'une atteinte portée à son intégrité. Et donc je comprends qu'une femme ait du mal à en parler ou hésite à en parler parce que c'est en quelque sorte là se dévoiler, se dénuder presque et montrer qu'on a été mutilé quelque part. Et donc là il peut y avoir, c'est des problèmes beaucoup plus délicats. Je pense que les gens comme Tommy Nathan l'avaient bien approché. Au niveau de la psychanalyse, c'est lorsqu'il a abordé le problème de l'excision. Il avait bien abordé cette difficulté aujourd'hui pour nous, disons pour les commentateurs qui sont un peu extérieurs à ce qui se passe dans ces communautés-là, d'aborder de ces problèmes-là qui sont des problèmes très très lourds. Quoi, parce que, bien évidemment, pour nous, il est évident que tout le monde va dire d'emblée c'est une pratique barbare, c'est quelque chose c'est un système affreux d'assujettissement de la femme, même d'assujettissement sanglant de la femme, etc. etc. Or, même lorsqu'on a dit ça, il reste que la question est beaucoup plus complexe que ça lorsqu'on parle de la prohibition de l'excision d'une manière radicale sur le territoire. Ça veut dire que cette complexité n'est pas une tolérance pour ce phénomène-là, mais c'est de voir aussi qu'il y a des conséquences dans une communauté donnée. Il y a un ébranlement, il y a un effondrement des valeurs. Il faut voir quelle est la place du sujet dans cette communauté et quelle sera la place du sujet qui refuse l'excision dans cette communauté. Et éventuellement, les châtiments bien pires qu'il pourrait subir s'il s'y dérobait. Donc c'est très très complexe comme, à mon sens, comme.
Et pour revenir plutôt sur la question du déni de la négation et de la victimisation, est-ce que, parce que toi-même tu fais cette analyse, presque a priori on dit, et j'ai la sensation que tu le dis aussi, il y a un risque. En ouvrant la voie, la porte aux discriminations et aux revendications légitimes, de refuser intrinsèquement et systématiquement que la sélection, qui est un mode de fonctionnement social et qui a cours et qui, en tout cas, dans notre société, est reconnue comme légitime dans bien des cas, mais qu'elle s'établisse sur des critères objectif ou complètement d'ailleurs construit socialement, est considéré par la loi et donc par le législateur, par le peuple français, on va dire. Voilà, le refuser radicalement comme légitime et créer des processus pour lutter contre ça, c'est complexe effectivement, puisqu'on vit dans des processus perpétuels de sélection. C'est complexe de vérifier ce qui est de l'ordre de la discrimination ou pas, mais je trouve ça personnellement étrange que tout de suite, quand on institutionnalise cette lutte contre la discrimination et qu'on essaye de s'en saisir, qu'automatiquement on dise attention. Attention, on ouvre la voie au processus de victimisation. À mon avis, il y a quelque chose, je pense que, mais ça c'est mon intime conviction, je pense que Didier Fassin a raison. Et je pense pas que le risque, ça soit qu'il y ait véritablement un risque d'être dans la victimisation. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de lutter contre les discriminations, d'institutionnaliser des processus, de mettre en œuvre tout un tas d'actions pour lutter, pour créer ce qu'on appelle la concurrence des victimes. Je pense qu'il y a vraiment une difficulté dans la société française, et en particulier dans la société française, d'accepter finalement un échec en termes... Et je pense que d'ailleurs, cette peur, elle touche beaucoup plus, notamment les populations qu'on met à devoir, c'est-à-dire des femmes, alors pas forcément des femmes, mais des populations immigrées ou issues de l'immigration, parce que c'est un échec patent de notre politique ou de notre modèle d'intégration, et je pense que c'est ça que ça trahit, et voilà, je trouve ça intéressant et pas forcément légitime, cette peur qu'on a d'ouvrir une fenêtre. Je pense qu'elle trahit plutôt une difficulté à s'avouer le problème dans toutes ses dimensions.
Ouais, je pense aussi qu'il y a une représentation de l'immigration qui, quoi qu'il arrive, il y a sous-jacent à cette représentation de l'immigration des éléments qui sembleraient dire qu'effectivement, il y aura toujours une position d'infériorité de l'immigré. Donc, je veux dire, l'immigré, même si on l'exalte, même si on le défend, même si on le protège, même sur un certain nombre de garanties, je veux dire que dans la représentation diffuse, on a l'idée d'une certaine forme d'infériorité. Il faut quand même se l'avouer. On ne peut pas dire, on n'a pas une vision de l'immigration, on nous dit rien. On est dans l'idée d'une nation qui est suffisante à elle-même, qui consent un certain nombre d'efforts pour ouvrir ses frontières, accueillir une main-d'œuvre, mais on n'est pas dans la valorisation de ce qu'on représente comme régénération interne d'une nation, l'immigration. On n'est pas dans On n'est pas justement comme dans un discours américain, fut un temps, venez, on a besoin de vous, etc. C'est avec vous qu'on va construire, tu vois. On n'est pas ça. On est dans une espèce de rétractation, de fébrilité, de crispation. Donc du coup, je veux dire, c'est dans ce cadre-là qu'on traite d'une certaine manière la discrimination, presque d'une manière, presque comme s'il y avait une sorte de... acte charitable presque derrière, même si on est révolté à un moment donné par certaines formes de discrimination, mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre un petit peu, effectivement, de la morale stricto sensu. Voilà, comme une... Et, en plus, la lutte contre la discrimination devrait plutôt s'intituler promouvoir la non-discrimination. C'est plutôt ça qu'il s'agit de faire. Puisque finalement, il s'agit de faire perdre aux identités de leur densité pour imaginer un monde où l'identité se fonde autrement que celle d'être assignée à des identités. Tu vois, donc. Et je crois que. Mais on a quand même une représentation générique dans l'espace social de l'immigration qui ne contribue pas à fortifier cette lutte contre les discriminations. La vision de l'autre, la vision de l'étranger, la vision de l'immigré reste celle d'un pays qui a été un pays dominant, qui a été un pays colonial. Alors que je pense que dans d'autres pays européens, on a un tout autre accès parfois à l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de ça, c'est pas... Non, tu vois. Mais on a une perception totalement différente de l'immigré, d'ailleurs, qui a un mot bon, qui est celui qu'on connaît, qui est surchargé, connoté... péjoré, etc., etc. Donc du coup, je crois que par exemple, sur le problème, à l'horizon du règlement de ce type de problème-là, on devrait pouvoir arriver à une situation, si tu veux, comme celle mentionnée par Glissant à New York, en disant « personne ne peut vous dire là-bas, rentre chez toi, puisque tout le monde vient d'ailleurs ». C'est un peu vrai ce que je disais à Paris, plus ou moins, ça, c'est moins vrai dans le reste de la France. On sait très bien que les mesures de discrimination positive risquent, disons, de créer parfois davantage de crispation plutôt qu'autre chose. Si on établit, par exemple, les politiques de quotas, on aboutit à des représentations communautaires, certainement qui permettent à des communautés d'accéder à une reconnaissance qu'elles n'avaient pas.
En même temps
qu'ils sont déjà là. Mais je veux dire, par exemple, Obama n'est pas le produit d'un système de quotas. Il n'a jamais été mandaté pour représenter une communauté noire. La révolution des mentalités qui s'est produite, blancs et noirs ont porté Obama au pouvoir. Et là, on a un phénomène, finalement, aux États-Unis, Obama qui réchappe à toute forme de réduction à un système de quotas.
Tu vois, c'est pas sûr, parce que peut-être que ce système de quotas, enfin je ne le crois pas, hein, mais c'est une hypothèse qu'on pourrait émettre, que ce système de quotas qui a justement produit en quelque sorte, enfin déconstruit les imaginaires. Quoi. Peut-être qu'en voyant, on parle notamment des Noirs américains arriver dans telle ou telle profession, accéder à l'université, etc., et ben peut-être que ça a déconstruit, ça a créé une forme de mixité, pour le coup, la raciale, qui a déconstruit aussi les stéréotypes, quoi, et dans toutes les couches sociales, notamment les plus hautes, peut-être.
Mais si, par exemple, le problème de la discrimination positive sous cet angle-là, c'est vrai qu'elle réintroduit du racial. Là, on avait voulu le faire disparaître. Par exemple, je pense à des gens qui disent « Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de France de football ? On a 2 tiers qui sont noirs. » Alors imaginons quelqu'un qui disait « Oui, il faut prendre des mesures de discrimination positive, il faut réinjecter du blanc là-dedans. » On serait dans des discours absolument extraordinaires, extraordinairement farfelus au niveau de la représentation. C'est-à-dire on va réintroduire du racial, on va le refaire rentrer par une porte, là on croyait l'avoir chassé. Donc il y a un problème qui n'est pas évident de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'exaltation de la diversité, à mon sens, au sein de l'entreprise aujourd'hui, c'est pas embauchant des gens de couleur pour montrer qu'on est sympa, qu'on est ouvert, qu'on n'est pas raciste. Le problème, c'est plutôt de savoir comment l'emblée dans les tissus entrepreneuriaux, on a de plus en plus de gens d'origine de langues différentes, et qu'il faut être ouvert à ça, que c'est quelque chose qui est une nouvelle donnée, et qui fait que l'univers humain relationnel de l'entreprise devient plus complexe qu'il ne l'était auparavant par rapport à des références, disons, culturelles monopartagées, quoi. Donc ça veut dire un peu ça. Moi, je pense que le gros problème, c'est d'arriver à une situation, finalement, où, dans les générations qui viendront, où le mélange est tel, où les rencontres sont telles, où les télescopages de culture sont tels, qu'à la rigueur, on est dans une société plurale, au niveau des contextes culturels, mais à la rigueur qui consent à cette pluralité sans trop la problématiser pour éviter l'écueil justement de la discrimination positive. C'est-à-dire, on pourra démultiplier, à mon sens, les systèmes, les choses concernant la discrimination positive. Est-ce qu'on aura fait pour autant évoluer les mentalités? Est-ce que l'on n'aura pas justement multiplié plutôt les contraintes qui, certes, permettent à beaucoup plus de gens issus de l'immigration d'accéder à des postes de responsabilité, mais on n'aura pas surmonté l'extériorité où nous les maintenons. Ouais, on pourra avoir des...
Oui, mais là, tu te places dans le temps long, mais... ouais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour... parce que là, on s'est vraiment porté sur les questions finalement raciales, même pas que, d'immigration. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans quota? Et il y en a, notamment... enfin, la loi sur la parité, bon, c'est la parité, donc on parle pas de quota. Mais qu'est-ce qu'on fait sans tous ces procédés aujourd'hui pour les femmes, pour... les immigrés, pour les gens qui ont telle ou telle pratique culturelle, pour, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour eux qui aujourd'hui, très concrètement, tous les jours, n'ont pas accès à certains postes, à des logements, vivent de manière insidieuse, presque quotidiennement, des discriminations? Qu'est-ce qu'on fait?
Je veux dire, on établit la discrimination et elle est sanctionnée. Ou elle est corrigée. Je veux dire, c'est ce qui se produit par exemple pour les discriminations à l'embauche. Une fois qu'elles sont... il y a un litige juridique, ça peut être porté devant le tribunal. Il y a des choses qui permettent justement de lutter. Là, j'évoquais, disons, un changement beaucoup plus profond au niveau des mentalités, dans la manière dont une nation se représente à elle-même, dans ses composantes, dans sa pluralité, et qui fait que, par exemple, si on prend, effectivement, il n'y a jamais eu de mesure d'intégration particulière des Portugais, des Italiens, des Espagnols, et toutes ces communautés considérables ça se pose même plus. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il va se produire le même phénomène
D'ailleurs, on n'est pas allé voir les femmes.
Est-ce que ça se produit ça se produira certainement inévitablement, naturellement. Est-ce qu'il faut justement en hâter ce processus-là par des mesures de discrimination peut-être positives? Peut-être, pour hâter ce processus-là. Ainsi se termine cette émission des Périphériques vous parle, consacré aux discriminations touchant les femmes issues de l'immigration et à l'égalité homme-femme. Vous venez d'entendre Damien Travallé et Yovan Gilles par rapport aux politiques de lutte contre les discriminations, ses postulats et ses conséquences qui ont émergé durant ces dernières années. Ne quittez pas Fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM et nous nous retrouverons très vite. Au revoir. 6 billion souls inhabiting 266 nations, their resentment and hopelessness proclaimed in 7,000 distinct dialects, a planet in total disarray.
Cornelius City Police officer Josh Hall for killing Amadou Diallo was found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
Anarchy.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of 8-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Anarchy.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society without government.
To be a human being, to be respected as a human being, to be given.